Le secteur des événements professionnels a énormément souffert de la crise. Il a repris les forces depuis quelques mois. Nous voyons ainsi revenir les professionnels dans les salons, notamment autour de la porte de Versailles à Paris. Mais la fréquentation a baissé quand même de 40 à 50% selon François Floribert, PDG et fondateur de InWink. Je l'ai invité dans ce podcast afin de me parler du futur des événements professionnels, des événements qui doivent, selon lui, se réinventer à l'issue d'une crise qui les a singulièrement secoués. Des interviews, des chiffres, des faits, des études. Pas de blabla, ce sont les podcasts de Visionary Marketing disponibles sur toutes les bonnes chaînes de balado-diffusion. Bonjour et bienvenue dans les podcasts de Visionary Marketing. Je suis Yann Gourbennec. Le sujet du jour, quel futur pour les événements professionnels à l'issue de la crise, avec trois idées qui nous sont suggérées par François Floribert, PDG et fondateur de InWink. Jusqu'à fin 2019, les événements professionnels B2B se tenaient principalement en présentiel, selon l'expression consacrée. Ce format fonctionnait bien, mais du fait de son coût élevé, il était peu fréquemment pratiqué par les annonceurs, souvent avec un temps fort annuel par exemple. Début 2020, le Covid frappe. Se réunir physiquement devient impossible. L'énorme palais des expositions de la Porte de Versailles, près duquel Visionary Marketing est installé, un des plus grands d'Europe, ferme ses portes sur le salon de l'agriculture. Les entreprises, qui doivent continuer à trouver les solutions pour discuter avec leur communauté, se précipitent alors sur un mode de réunion qui existait depuis longtemps, le webinaire. 100% des événements en 2020 se font en ligne, nous explique François. Les professionnels sont bombardés d'invitations. Une grosse fatigue s'installe. Ces webinaires sont très limités dans l'interaction, nous dit-il, donc finalement peu satisfaisants pour les deux parties. Mais quel avenir pouvons-nous imaginer pour les événements professionnels en sortie de cette crise ? Je vous laisse en compagnie de François Floribert, qui vous proposera trois solutions pour égayer ces événements et réenchanter les salons professionnels. Alors, je suis avec François Floribert. Bonjour François, vous êtes CEO et fondateur de InWink. Et nous allons parler, bien entendu, puisque c'est votre métier, des événements. Et alors, s'il y a un métier qui en a pris vraiment plein la figure pendant le Covid, c'est bien le vôtre, celui de l'événementiel. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire brièvement un bilan de sortie de crise ?
Bonjour Yann, oui tout à fait, effectivement l'événementiel a été singulièrement secoué par la crise du Covid, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on fait effectivement un petit bilan en retraçant ce qui s'est passé sur les deux, trois dernières années, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que jusqu'à la fin d'année 2019, l'événementiel B2B, donc business to business, c'est principalement présentiel. Donc on se rencontre, on échange, on assiste à des sessions, et puis on se serre la main, l'événement est terminé, et puis on se dit à la prochaine fois. Ce format-là était un format qui fonctionnait bien parce qu'il est favorable, il facilite les interactions entre les gens, donc il marche plutôt pas mal. Par contre, il est coûteux, parce qu'il faut réserver un endroit, il faut préparer, il faut accueillir. Bref, donc un format qui marche bien mais qui est coûteux, et donc les annonceurs le faisait de façon assez peu fréquente, souvent avec un temps fort annuel par exemple, et puis on se revoit l'année prochaine. Donc voilà, début 2020, le Covid frappe et bien sûr le présentiel est interdit. Donc tout d'un coup, on peut plus se réunir sur un lieu. Tout le monde, les entreprises, les annonceurs doivent continuer à trouver des solutions pour discuter avec leurs audiences. Donc ils se précipitent sur quelque chose qui existait déjà, qui s'appelle le webinaire. Donc le webinaire, qu'est-ce que c'est ? C'est un petit événement format court en ligne. Et voilà. Donc c'était une solution à ce moment-là. Toute l'année 2020, 100% d'événements en ligne. Voilà. Les audiences sont bombardées d'invitations à des webinaires. Voilà. Il y a un petit peu de petit peu de voilà de fatigue qui s'installe parce que ces webinaires se ressemblent tous les uns les autres et puis sont très limités dans l'interaction qu'on peut avoir. Donc assez peu satisfaisant pour les deux parties que sont l'organisateur et qui sont les participants. Mais il fallait bien faire quelque chose. Donc 2021, retour du présentiel partiel hein, avec les jauges qui sont définies et réajustées en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Donc là, la difficulté pour les organisateurs et les annonceurs, bah, c'est de s'adapter hein, à quelque chose qui est très changeant. Certains organisateurs de gros événements, on peut citer par exemple BPI France, hein, qui organise beaucoup d'événements, notamment un très gros événement à l'hôtel Accor Arena, qui un mois avant attend 30 000 personnes et puis deux semaines avant finalement ben, ne peut en accueillir que 5 000. Donc nécessité de s'adapter très très vite en fonction de l'évolution des jauges. Et c'est là que donc vient l'idée de se dire ben, si je ne peux accueillir que quelques personnes sur place, eh bien je vais proposer aux autres que je ne peux pas accueillir ou qui ne peuvent pas se déplacer parce que les restrictions de leur entreprise, etc. Eh bien je vais leur proposer d'assister en ligne à cet événement présentiel. Donc là, on est sur ce qu'on appelle maintenant l'événement hybride, c'est-à-dire une partie en présentiel et puis une partie en ligne. Donc voilà, un format qui a été testé en 2021, qui a ses avantages, qui a ses inconvénients. On pourra en parler un peu plus si vous voulez. Voilà.
Alors, on sent quelque part une nécessité, et peut-être poussée par la crise, de réinventer les événementiels, mais ça date pas d'aujourd'hui. Hervé Bloch, qui est un habitué de nos colonnes, que vous connaissez bien, a pas mal disrupté d'ailleurs ce marché de l'événement B2B, et il ne mâche pas ses mots d'ailleurs. Peut-être.
Oui, ben, tout à fait. Je pense qu'il y a une nécessité de réinventer l'événement maintenant, peut-être plus qu'avant encore. Pourquoi ? Parce que les comportements ont changé. Hein. La crise a été quand même marquante, clairement. Les comportements ont changé, les attentes ont changé. Les gens vont se déplacer moins qu'avant, même s'il y a une envie quand même de revenir au présentiel, parce qu'on est des gens de chair et d'os.
On est des animaux sociaux quand même, oui.
Exactement, on aime bien se rencontrer, on aime bien, c'est quand même plus facile pour échanger, pour communiquer, pour partager un enthousiasme, une énergie autour de certains sujets. En ligne, c'est quand même plus compliqué. Donc on aime bien, on préfère se rencontrer. Voilà, donc ça c'est quand même, et on sent déjà que les gens ont envie de revenir. Mais ce que l'on remarque aussi, c'est que pour une certaine partie des audiences, bah il y a, je vais pas dire, bon, c'est un petit peu fort en disant qu'il y a, mais il y a un petit confort qui s'est installé et une partie des gens vont moins se déplacer, plus difficilement, vont être plus exigeants pour dire bon, est-ce que je viens pas, non, finalement je vais y assister en ligne, ça ira très bien, ou je le regarderai en replay après. Voilà. Donc il y a ce phénomène.
On voit dans les chiffres des baisses de fréquentation sur ces événements. Je travaille porte de Versailles, j'ai l'impression qu'il y a un événement toutes les 30 secondes maintenant. Donc,
oui, il y a beaucoup d'événements, mais on remarque, mais tous les organisateurs annonceurs disent la même chose. Clairement, ils voient une baisse de fréquentation qui est importante. Typiquement, 40-50% de moins que de fréquentation avant le Covid. Donc c'est une baisse de fréquentation qui est nette, qui pose des vraies difficultés d'organisation. Évidemment, on va réserver un lieu pour accueillir 1000 personnes et puis 500 viennent. C'est quand même très embêtant. Donc clairement, il y a moins de participation. La question est-ce que je vais avoir une meilleure qualité de participation? Et donc clairement, ce qu'il va falloir faire maintenant, s'habituer à, ben, j'aurai moins de personnes. Ce qu'il faut, c'est que j'ai les personnes les plus pertinentes pour moi. Donc une emphase sur la qualité plutôt que sur la quantité.
Donc ça, c'est déjà un premier renseignement. Pour vous, ces 50% qui ne viennent plus, ils vont pas revenir. Ils vont rester
probablement chez eux, quoi. Oui, probablement. Difficile de les faire revenir. Après, ben voilà, encore une fois, toute une question de qui. Est-ce que c'est les bonnes personnes qui sont pour nous, hein, donc annonceurs, organisateurs, voilà. Donc plutôt une emphase sur la qualité des participants plutôt que sur la quantité. Et puis, ben malgré tout, même si j'ai moins de gens qui sont présents, il faut quand même que je puisse donner une partie de l'expérience, hein, du contenu, etc., aux gens qui n'ont pas fait l'effort, parce que certains quand même sont peut-être effectivement très pertinents d'un point de vue marketing. Donc, je vais quand même aussi proposer une expérience en ligne, en direct ou post-événement, donc en replay. Ce serait dommage de s'en priver. Donc il faut quand même le faire. D'où notre, le fait qu'il faut quand même, selon nous, continuer à jouer sur les deux formats. Mais tout en gardant en tête que ce n'est pas un événement hybride, hein, comme on dit, ce n'est pas un événement, mais c'est deux événements en un. Nous, ce que l'on recommande et ce que l'on voit, et beaucoup de nos clients sont de cet avis, c'est que il faut récompenser le participant qui a fait l'effort de se déplacer en lui proposant des choses qui ne sont pas accessibles en ligne. Voilà. Donc distinguer un petit peu ces deux vécus de l'événement.
Alors ça y est, on commence à toucher du doigt le fond du sujet. Donc il faut réinventer cet événement et proposer des choses qui sont plus finalement intéressantes aux participants qui se déplacent. Alors est-ce que ça se limite à du one-to-one ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Qu'est-ce qu'on fait? On leur donne des cadeaux? Qu'est-ce qu'on fait?
Y a plein de... ça va être un petit peu à l'initiative de l'organisateur en fonction de ce qu'il veut faire, de son audience, ses objectifs. Mais oui, l'idée c'est par exemple, disons que l'on a une intervention un petit peu d'une intervenante de renom, de prestige, voilà. Ça, cet événement-là, on va le garder en exclusivité sur place, sur site, pour les gens qui sont venus sur site, quitte à le mettre en ligne un jour, deux jours, une semaine après, six mois après, si on souhaite, ou pas du tout. Hein, si on veut récompenser et garder cette exclusivité, hein, créer l'événement littéralement, hein, comme on pourrait dire. Voilà. Ça peut être les opportunités de rencontre. Vous l'avez évoqué vous-même, Yann, on est des bêtes sociales. Donc, on peut proposer des opportunités de rencontre qui ne sont pas forcément disponibles aussi en ligne. Et puis, proposer un petit peu de gamification, un petit peu d'animation qui ont lieu sur place et qui n'ont pas lieu en ligne. D'autant plus que si on a de l'événement payant, ça justifie encore en plus de proposer un vécu qui est nettement meilleure qualité que si on ne fait pas l'effort de se déplacer. Donc, un petit peu les grandes tendances qui se dégagent.
Ok, donc c'est compris. Donc il faut réinventer et proposer de la personnalisation, de la gamification. Bon, alors maintenant on va rentrer vraiment dans le gras du sujet parce que vous allez nous montrer à quoi va ressembler l'événement du futur. Alors moi, il y a un article qui a attiré mon attention dans CB News que vous avez rédigé il y a pas très longtemps et qui parlait des événements hub and spoke. Alors là, ça c'est un premier exemple. Alors allons-y. Qu'est-ce que c'est l'événement hub and spoke?
L'idée en fait, c'est on a vu que l'événement présentiel et l'événement digital, l'un ne remplace pas l'autre. C'est un des éléments, un des enseignements clés des deux dernières années, c'est que il ne faut pas les voir comme des concepts qui s'opposent, mais qui se complètent. Parce que on a vu les comportements, les attentes et les possibilités ne sont pas les mêmes. Si on prend un parallèle, on peut dire que les vidéos, les concerts enregistrés sur YouTube n'ont pas remplacé les concerts live. Et c'est bien comme ça. Et on espère que les plateformes de cinéma ne remplaceront pas le vécu d'aller au cinéma. Voilà. Donc l'événement présentiel et l'événement digital ne s'opposent pas, ils se complètent. Donc si on réfléchit sur comment on peut jouer astucieusement sur ces deux formats pour les compléter, il y a des tendances nouvelles qui se dégagent. Alors donc la première, c'est de combiner, de jouer des petits événements digitaux entre des événements présentiels. Ça, c'est une astuce qui est utilisée par beaucoup d'organisateurs maintenant et qui marche bien. Je fais des petits événements mensuels, voire hebdomadaires en ligne. Et puis, je garde un lien avec mon audience. Et puis, je crée l'excitation en anticipation de mon événement présentiel. Vous voyez, ça peut aussi aider à justement avoir une meilleure participation à mon événement présentiel. On parlait tout à l'heure de la difficulté à faire venir les gens. Une des astuces aussi, c'est de garder l'audience, de garder l'engagement au travers d'événements digitaux. Et puis, si on regarde un petit peu plus loin, on se dit, voilà. Imaginons, je fais un événement présentiel, on va dire par exemple à Paris, hein, je prends l'exemple de la France, j'en ouvre l'accès en ligne pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer, mais finalement j'ai des audiences qui m'intéressent beaucoup à Nantes, à Lille, à Strasbourg, à Marseille, à Lyon. Bien. Si je propose à ces gens à Lyon, à Marseille, d'assister à mon événement depuis leur ordinateur ou depuis leur smartphone, ben c'est intéressant, mais ils vont être tout seuls en fait à regarder l'événement sur un petit écran. Bon, c'est pas mal, mais c'est quand même un peu dommage. Si par contre, je propose une petite déclinaison de mon événement à Paris, à Lyon, présentiel, n'est-ce pas ? Une autre à Marseille, une autre à Lille, tout ça en même temps. Je vais donc avoir des gens qui vont venir à un événement présentiel à Lyon, un autre à Marseille. Je vais pouvoir diffuser à Lyon, par exemple, une partie de l'événement de Paris, voire l'inverse. D'accord ? Et donc, je vais avoir des gens qui vont se retrouver en présence à Lyon, qui vont assister à une petite, voilà, une déclinaison locale de l'événement, pas assister en ligne tous ensemble autour d'un grand écran à une partie d'événement de Paris, et donc ils pourront interagir entre eux. Donc, on combine là les avantages du présentiel et du digital, en provoquant un événement en étoile, hein, comme on dit, donc voilà, autour de l'événement présentiel principal. C'est le concept du Hub and Spoke, un format qui est très prometteur, alors qui va demander un petit peu de ressources pour le préparer, parce que vous l'avez vu, vous devinez que ce n'est pas si simple que ça à mettre en œuvre, mais si on y arrive, on peut aussi imaginer cette déclinaison au niveau mondial, hein, ou global, avoir un événement, on discute avec, par exemple, des clients comme Vivatech, qui fait un très gros événement européen à Paris, mais qui voudrait proposer une expérience un petit peu plus riche, par exemple, une partie de son audience à Singapour, je ne sais pas, aux États-Unis, à New York, à Toronto, à Rio de Janeiro, je ne sais pas où. Donc, en proposant des petites déclinaisons régionales ou continentales, et puis en mixant les flux vidéo qui permet un petit peu de combiner l'expérience proposée sur chacun des événements présentiels. Mmh. C'est ça le concept du Hub and Spoke.
Et ça, ce sont des choses qui existent déjà ou qui sont simplement dans les cartons, ou est-ce qu'il y a des entreprises peut-être à l'étranger qui ont déjà fait ça ou...
Il y a des entreprises qui ont essayé ça, mais à plus petit format, parce que on teste encore un peu le concept. Mmh. Il est coûteux, mais donc c'est effectivement plus en préparation et en réflexion, parce que ben, néanmoins il va effectivement quand même demander un petit peu de ressources, de temps de préparation. Mmh. Mais c'est clairement un des dispositifs qui, selon nous, va être déployé dans le futur.
Je pense que ce qui est difficile pour ce genre d'événement, c'est surtout la montée à l'échelle, parce que bon, des événements à la fois physiques et digitaux comme ça, sans vouloir me vanter, j'en faisais déjà il y a 20 ans, donc c'était peut-être pas très très beau, parce que bon, on avait des technologies un peu frustres, mais enfin ça fonctionnait.
Oui. Bien sûr, l'idée c'est d'utiliser les nouvelles technologies, notamment en termes de diffusion vidéo, etc., de grands écrans, etc., qui permettent d'avoir un meilleur exemple. Effectivement, on peut voir le match de football déjà sur la place, mais c'est un petit peu ça l'idée, mais aussi après de combiner les flux dans les deux sens. Oui, c'est profiter des nouvelles technologies pour proposer une expérience qui est plus dynamisante. Voilà, c'est un petit peu ça.
Donc ça, c'est un moyen de récupérer quelque part les 40% ou 50% qui sont pas venus. Exactement. En les mettant ailleurs et en faisant en sorte que finalement on fasse grossir l'audience, mais à plusieurs endroits.
Et exactement, et puis de proposer une expérience qui est plus intéressante à une partie de mes audiences qui sont loin et qui de toute façon ne feront pas le déplacement parce que c'est plus voilà, on limite aussi les déplacements, empreintes carbone, etc. Donc il y a aussi des aspects écologiques aussi qui entrent en ligne de compte. C'est vrai que si on peut contribuer à réduire un petit peu les déplacements lointains, mais effectivement on réduit aussi l'empreinte carbone, on participe à la sauvegarde de la.
Très bien, ça c'est le Hub and Spoke, c'est très clair. Alors maintenant, la personnalisation. Alors qu'est-ce que vous entendez par personnalisation des événements ? Vous voulez dire il y a quelqu'un qui vient m'accueillir à l'entrée en m'appelant par mon prénom ou...
Déjà, c'est très très bien et très agréable. Les gens adorent qu'on les accueille par leur prénom. Et oui, c'est ça le concept. C'est que le concept de la personnalisation, c'est que l'organisateur me connaît un petit peu. Il me connaît parce que j'ai déjà participé à certains de ces événements ou parce que je suis membre d'une de ces communautés. J'ai accepté de partager des données me concernant avec cet organisateur, donc il commence à me connaître un petit peu. Comme il me connaît, il sait quels sont mes centres d'intérêt, quels sont les sujets qui me captivent. Et donc, lorsque j'arrive sur cet événement, présentiel ou en ligne, déjà, je suis reconnu, je me suis créé un compte, notamment sur l'expérience digitale, je me suis créé un compte, donc il me reconnaît. Et il va me présenter effectivement des choses qui sont pertinente par rapport à mes attentes. Je prends un exemple. L'organisateur sait que je suis quelqu'un très intéressé par la cybersécurité. Je m'inscris à l'événement. Il me dit, tiens, vous venez de vous inscrire à l'événement. Merci. Il y a cet atelier sur le thème de la cybersécurité qui est demain à 15h. Surtout, ne le manquez pas. Un exemple de personnalisation qui est simple, mais qui va être très efficace parce que voilà, plutôt que de me proposer de m'inscrire à des ateliers qui sont totalement en dehors de mes centres web. Donc c'est ça le concept de la personnalisation. Et comment il est possible? Il est possible parce que je vais demander à mon audience de partager avec moi des données, donc évidemment dans le respect du RGPD, mais on va chercher le consentement explicite de la personne, et elle va le faire. Pourquoi? Elle va le faire parce que elle a confiance en moi. Je ne vais pas utiliser ces data pour la revendre à quoi que ce soit. Je vais l'utiliser pour proposer une expérience, des rencontres, du contenu pertinent pour moi. Donc on rentre dans ce jeu vertueux d'échange de bons procédés. C'est ça le moteur de la personnalisation, qui fait que c'est un élément de meilleure qualité, qui fait que donc l'audience vient ou revient parce que l'événement est plus intéressant. Et quand vous faites ça, vous me donnez l'impression que vous faites attention à moi. Et si vous faites attention à moi, j'ai plus confiance en vous et j'ai plus envie d'acheter vos produits au final. Hein.
Oui. Voilà. Oui, parce qu'aujourd'hui, ça existe déjà dans les plateformes, on met ses préférences, mais en fait, on fait que mettre ses préférences, quoi. En fait, en gros, on nourrit la bête. Ils sont très contents parce que comme ça, ils connaissent nos goûts et nos couleurs. Je sais pas trop ce qu'ils en font d'ailleurs parce que.
Alors, si on parle des plateformes, si on parle des plateformes d'e-commerce, elles vous achetez un livre, elles vous proposent un livre à côté.
Oui, mais bon, oui. Voilà. Moi, je parlais des plateformes événementielles.
Les plateformes événementielles, elles vont en fait, évidemment, l'idée, c'est de collecter de la donnée plus riche sur vous en tant que décideur ou en tant qu'influenceur de votre entreprise, évidemment. Et donc, avec cette data, bien sûr, de faire un suivi. Alors, ça peut être de vous garder comme un client fidèle. Ça peut être aussi, effectivement, de vous montrer les offres qui sont pertinentes pour vous, bien sûr, pour bien entendu, au final, hein, quand même, c'est d'influencer une décision d'achat. Donc, c'est du marketing. Hein, mais voilà. Mais ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est la réinvention de l'événement. Elle passe par une meilleure qualité d'événement, et la meilleure qualité d'événement, c'est un contenu. Qui est préparé, c'est des interventions qui sont de qualité, qui sont préparées, et c'est des choses qui sont pertinentes par rapport à mes centres d'intérêt. Les gens ne veulent plus perdre du temps entre guillemets sur des choses qui les intéressent pas. Et donc le maître mot, c'est la qualité de l'événement. Hein. Et la qualité de l'événement, c'est ce qu'on est en train de discuter. Hein.
C'est un peu comment dire subjectif, parce que il y a des gens qui peuvent trouver quelque chose de très bien et moi à côté je peux trouver très mauvais. Enfin, c'est subjectif.
Tout à fait. C'est pour ça que je parle de pertinence de contenu, parce qu'effectivement ce qui va vous intéresser n'est peut-être pas intéresser vos collègues ou vos. Oui, bien sûr, c'est très très subjectif. D'où la nécessité de personnalisation. Oui, si je fais effectivement une présentation keynote sur des sujets qui vous intéressent pas, vous allez dire que cet événement est nul. Et vous aurez raison. Donc.
La nécessité aussi de prendre le pouls de l'audience pour savoir et le plus possible en temps réel. Bien sûr. Si ça lui convient ou pas, et ce qu'il faut faire pour réparer, enfin pour corriger le tir.
Bien sûr, un autre exemple, c'est sur des très très gros événements avec avec des programmes très très riches, par exemple les gros salons. Je viens, je m'inscris, je suis un peu perdu, donc il y a 500 ateliers, machin, je suis perdu. Et ben j'ai une interface, l'interface de l'événement qui va me proposer un track, un parcours thématique. Ouais. Il faut que ce parcours thématique il soit ciblé sur mes intérêts, sinon j'y trouve aucun intérêt. Je dirais que cet événement n'est pas bon.
C'est pas ça à la base le problème, parce que notre temps est limité. Vous le disiez vous-même. Et bon, j'ai été client assez longtemps, donc on n'a pas forcément le temps de passer des heures sur le salon. Et on se retrouve face à une offre qui est justement pléthorique. Elle n'est pas véritablement personnalisée, mais par contre, il y en a pour tous les goûts. Et oui. Ça peut, vous pouvez passer des heures et des heures, objectivement.
Et, bien sûr.
Le pire, on n'a pas le temps. Et du coup, on passe à côté de tout un tas de trucs qui sont intéressants. Et à côté de ça, on va sur tout un tas d'événements qui ne le sont pas. Enfin.
Exactement. Et vous repartez déçu et vous dites que cet événement avait vraiment pas, très peu d'intérêt. Alors que si vous venez effectivement à cet événement, il y a beaucoup, beaucoup de choses. Mais votre application de l'événement, parce que l'ordinateur vous connaît, va vous proposer un parcours de visite. Ce parcours de visite qui va aller vous amener vers un partenaire intéressant pour vous, puis un autre, vous proposer un atelier, une session, une table ronde. Là, vous êtes guidé un peu dans votre visite autour des sujets qui vous intéressent. Et comment je peux faire ça? Je peux faire ça parce que je vous connais au sens de vos centres d'intérêt, de vos attentes.
Ça, c'est un peu le principe d'événements one-to-one, type one-to-one Monaco ou les autres.
Alors les événements one-to-one, c'est oui et non, parce que l'événement one-to-one, typiquement, c'est j'ai d'un côté des offreurs, de l'autre des acheteurs. Je fais venir les offreurs qui sont les payeurs pour l'événement, et puis les acheteurs viennent souvent invités avec l'engagement qu'ils assistent à des rencontres one-to-one. Alors si on fait juste, si on s'arrête là, comme c'est le cas de beaucoup de ces événements maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est qu'effectivement, un meeting one-to-one sur deux ou trois ou quatre est intéressant. Donc voilà. Donc on peut. C'est un format qui est assez intéressant et efficace, mais pour autant, il faut aussi là encore le cibler et s'assurer que les one-to-one qui sont organisés sont pertinents et pour l'acheteur et pour l'offreur. Parce que si à vos offreurs vous avez des gens qui ne sont pas, par exemple, des décideurs ou qui ne sont pas du tout intéressés par ce que vous leur offrez, ils viendront par politesse ou parce qu'ils sont obligés, mais ils repartiront et vous aurez rien gagné. Donc oui, ce format a ses avantages, mais comme tout, il faut qu'il soit bien ciblé, bien maîtrisé et qu'il propose des rencontres pertinentes, encore une fois, on revient à ce mot-là, pour chacun des deux acteurs.
Ok, on comprend bien donc les enjeux de personnalisation. Dernier point, la gamification. Waouh, ça c'est des choses dont on parle depuis longtemps, hein, ça, la gamification. On en parle beaucoup, mais on en voit peu en fait.
Oui, parce que c'est compliqué. C'est comme l'humour, c'est compliqué. Quand ça marche bien, c'est très efficace. Quand c'est raté, la gamification, nous on a. Alors, on n'est pas des spécialistes du sujet, on n'est pas du tout ce qu'on observe, ce que font nos clients, ce qu'on remarque, c'est que quand c'est bien fait, ça plaît. Il n'y a pas de solution universelle. Il faut bien penser, le faire à bon escient, de façon qui est maîtrisée, au bon moment. On voit que, par exemple, les Nordiques font des événements. Et ils jouent beaucoup sur ces ils théâtralisent, vous rentrez dans le hall d'accueil, alors ça va de simple orchestre de musique à des feux d'artifice, des machins, donc il y a plein de pratiques, mais les gens aiment ça quand même, hein. Les gens aiment ça parce que c'est bien aussi d'avoir un petit peu de plaisir quelques instants et égayer sa journée professionnelle, donc je fais une réponse un peu vague, un peu générale, parce que au final ça marche à condition d'être bien fait au bon moment, et pas trop, et très ciblé aussi. C'est votre audience. Si vous avez, les audiences sont pas toutes les mêmes, donc il faut pas qu'il y ait aussi un grand décalage entre ce que vous avez proposé et les personnes qui viennent. Parce que
merci François, et puis bonne chance pour réinventer les événements du futur.
Merci beaucoup.
Surtout, n'oubliez pas de mettre une bonne note à ce podcast si vous l'avez apprécié.